écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Dominique Fils-Aimé, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à Paris.
Merci.
Tu as fait un très beau concert hier soir et avant-hier soir au Duc des Lombards à Paris.
Merci.
Qui avait été précédé par un concert au Centre culturel canadien. Tu es venue nous présenter ton nouvel album et nous allons en parler. Donc tu es née et tu as grandi et tu vis à Montréal, c'est ça ?
Exact.
Tu m'arrêtes hein, s'il y a des...
Oui.
Tu es d'origine haïtienne et tu es à Paris donc pour quelques jours pour nous présenter ton nouvel album Stay Tuned. C'est ton deuxième album et c'est le second d'une trilogie assez ambitieuse dans laquelle tu t'es lancée, qui non pas retrace mais peut-être voyage, parcours, l'histoire noire américaine, africaine américaine. C'est assez époustouflant de créativité, de personnalité, d'élégance, de richesse et de sobriété. Cette sobriété m'a beaucoup plu parce qu'en fait, il faut un certain courage aujourd'hui dans la musique, je trouve, pour assumer la sobriété. Et donc, nous allons, si tu veux bien, discuter ensemble de tout cela. Donc, bienvenue à Paris.
Merci.
Ça se passe bien depuis que tu es arrivée ?
Ça se passe tellement bien.
Ça se passe tellement bien.
On a été super bien accueillis. Les gens ont été adorables. Dans toutes les salles, on est allé. Des beaux accueils, un public attentif et très respectueux. Donc oui, on a adoré ça.
C'est la première fois que tu viens en France ?
C'est la première fois que je viens faire un spectacle.
D'accord.
Mais j'étais venue dans le passé, j'avais déjà beaucoup aimé la ville, l'architecture, tout est vraiment très beau. Mais là, c'est une autre expérience qu'on vient pour...
Oui, là tu es venue en tant qu'artiste.
Exact.
Mais ce n'était pas ta première fois en France. D'accord. Donc pour faire un peu connaissance et découvrir un petit peu d'où tu viens, si mes recherches sont bonnes, la musique était très présente dans ta famille durant ton enfance. Et tu avais une sœur qui faisait du piano et de l'opéra.
Oui.
Qui se destinait à une carrière professionnelle. Qu'est-ce qui, en fait, dans cette enfance, musicalement, a fait de toi celle que tu es aujourd'hui ?
Je pense qu'un des éléments principaux, ce serait le fait qu'il y avait beaucoup de musique de différents styles à la maison et de différents horizons, autant dans le genre que dans la location d'où ça venait. Ma sœur, le côté plus classique, opéra, piano, etc. Ma mère écoutait beaucoup de musique mexicaine parce qu'elle avait étudié au Mexique. Ma grand-mère écoutait de la musique des fois d'église, des fois créole. Donc il y avait vraiment une ouverture à tous les niveaux. Il y avait le piano que ma sœur a essayé de m'apprendre à son désespoir parce que je ne pratiquais pas en fait. Donc ça c'était assez drôle. Chaque fois elle me disait « t'as pas pratiqué ?»« Oui, oui. » Je dis « mais je vis dans la même maison que toi, je sais que t'as pas pratiqué. » Donc il y avait beaucoup de musique présente, même si je n'étais pas...
Mais tu n'avais pas envie, ouais. C'était pas ton... Le piano, c'était pas...
J'aimais faire ce que je voulais, en fait, c'est qu'il fallait faire comme si tu avais une pomme dans la main et garder tes doigts vraiment dans un angle spécifique. Et moi, j'aimais passer mes doigts un par le dessus de l'autre, comme on n'a pas le droit de faire. Et le fait de me faire dire que je n'avais pas le droit tout de suite, ça me...
Ça t'a bloqué.
Ouais, ça m'intéressait moins déjà.
D'accord. Donc tu as des origines aussi, on en a parlé, haïtiennes. Est-ce qu'elles ont compté ? Qu'est-ce que tu en as... garder, est-ce que tu as gardé des choses de cette culture-là ? Est-ce que c'était présent à la maison, musicalement ?
Tout à fait, musicalement et aussi culturellement, la langue aussi. Et musicalement, c'était très présent. On parlait créole à la maison, ma mère parlait espagnol aussi, donc on a appris un peu. Donc il y avait la présence de la culture haïtienne, mais il y avait aussi une présence et un intérêt pour toutes les autres cultures et une ouverture, donc... Ce qui m'est resté le plus, je pense, c'est justement le fait de pouvoir combiner et se nourrir et cultiver notre intérêt pour différentes cultures, ne pas être pris ou bloqué dans forcément la nôtre, entre guillemets, et avoir le droit d'aller explorer d'autres choses et de voir qu'est-ce qu'ils ont à offrir.
Oui, d'accord. Donc ça, effectivement, ça se sent là maintenant, aujourd'hui. Hein. Donc tu es autrice, compositrice et interprète. Quelle a été ton éducation dans tous ces domaines pour apprendre à faire tout ça ?
J'ai pas eu de formation académique musicalement, mais moi personnellement, je crois fortement que la musique, c'est pas les notes qu'on joue, c'est l'intention qu'on y met en fait, et la volonté de partager quelque chose, c'est une émotion qu'on a mis en fréquence auditive. Donc moi, ma formation musicale serait plus au niveau psychologique et empathique quelque part. Donc j'ai étudié en psycho, j'ai travaillé en support psychologique pour les employés et juste ce côté-là. C'est plus tard, je me suis rendu compte que cet intérêt-là, c'était le même qui nourrissait mon envie de faire de la musique. C'est toujours une envie de partager, de communiquer. Donc les communications, la psycho, c'est des domaines qui ont nourri la musique plus que même une formation académique aurait pu le faire, en fait, parce que c'est plus proche de moi.
C'était justement ma question suivante sur la psychologie, parce que je me demandais, quand j'ai lu que tu avais fait des études de psychologie, est-ce que tu ne te destinais pas dès le début, en fait, à une carrière professionnelle dans la musique pour être partie dans la psychologie ?
Pas du tout. Pour moi, la musique, c'était vraiment un outil. Pour moi, c'était ma thérapie à moi, c'était mon plaisir à moi.
Un hobby.
Oui, vraiment.
Juste un hobby.
Exact. Et aussi dans la culture haïtienne, mais dans plusieurs cultures, en fait, les arts ne sont pas perçus comme un emploi. C'est perçu comme quelque chose qu'on fait pour plaisir, mais un vrai travail. Là, il faut aller travailler de 9 à 5. Il y a une espèce de format, de formatage social qu'en grandissant, on ne se rend même pas compte qu'on aurait le droit de faire autre chose et qu'il y a vraiment des possibilités. C'est sûr que c'est différent et on se sent peut-être un peu en marge de la société par moment, mais ce n'est pas plus mal parce que ça nous permet de l'observer et de lui redonner, lui mettre un miroir des fois. Dire, ah, quand on est à côté, on a 2 minutes pour respirer et regarder autour de nous. Nous, on voit ça. Et les gens peuvent se reconnaître dans ce reflet.
Oui, et puis d'offrir un autre angle de vue aussi,
exact,
avec un recul.
Oui.
Et donc, si j'ai bien compris, ta sœur, qui se destinait à une carrière de chanteuse professionnelle, et à cette époque-là, toi, tu étais plutôt en arrière, jusqu'à ce qu'elle arrête et que tu passes en avant. Et en fait, ce qui m'a amusée, c'est que j'ai lu qu'après, tu as commencé à chanter avec des groupes, mais pour faire les chœurs. Donc, tu étais encore en arrière, et on t'a repoussée en avant. Mais pourquoi tu ne voulais pas être devant ou...
Non, j'avoue qu'être devant, ça a toujours été quelque chose qui me faisait un peu peur, quelque part. C'est... Déjà, sur le concept d'une scène, le fait d'être surélevé alors que tu essaies de connecter directement d'un cœur à un autre, d'une âme à une autre, c'est comme une antithèse. Il y a quelque chose qui... une dichotomie qui ne fonctionne pas dans ma tête. Et je suis très sensible, en fait, comme personne. Donc, les énergies des gens ou le regard des gens constant ou l'attention, c'est quand même quelque chose de difficile à porter. Et ça demande... une force et de s'assumer en fait complètement. Et moi, je ne m'assumais pas sur scène. Et j'ai, justement, je dis c'est un peu le destin, mais j'étais entourée de bandes et de gens qui m'ont donné ma place en arrière, mais qui avaient en tête de me pousser et de m'aider à aller en avant dans un environnement où je me sentais en sécurité. Donc j'ai vraiment eu cette chance où il y a un de mes amis, spécifiquement un KOF, qui est français et qui est arrivé à Montréal, qui avait monté un band et qui m'avait proposé de prendre le lead avec lui, mais il m'a dit, je m'occupe de parler à la foule, toi fais ce que tu veux en fait, tu prends la place qui t'intéresse, et progressivement ça m'a permis d'être de plus en plus à l'aise sur la scène.
Très bienveillant.
Oui, vraiment.
Tu es entourée de bienveillants.
Constamment, pardon.
Donc tu as travaillé déjà avec pas mal de monde, puisque j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de collaborations, et dans une interview sur le site canadien, québécois, je ne sais pas, il faut ménager les susceptibilités. Sur le site canadien La Presse, tu dis « Je travaillais avec quiconque s'investissait pour les bonnes raisons dans n'importe quel style.
Ouais. »
Quelles sont les bonnes raisons pour toi ?
Pour moi, les bonnes raisons, c'est de faire la musique parce que vraiment, ça vient du cœur et qu'on a besoin de le partager. On a un amour. Ce n'est pas parce qu'on veut plaire à qui que ce soit ou qu'on cherche un gain quelconque ou à trouver la formule magique pour que ça fonctionne. Dès que c'est un but matériel ou un but de succès éphémère ou faux, en fait, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Je préfère faire de la musique avec quelqu'un que personne n'entendra ou peut-être qu'ils entendront dans 50 ans parce qu'il a osé aller quelque part de différent et ne pas récolter ce que ça sème tout de suite, mais savoir qu'on a créé quelque chose qui va rester, qui va peut-être aider les gens à ouvrir leur esprit sur autre chose. Pour moi, ça vaut tout l'argent du monde, en fait.
Et pourtant, tu es passé dans The Voice au Québec.
Oui, exact.
Là, tu viens de gagner le prix de la disque,
oui.
C'est ça, qui, pour l'album jazz.
Exact.
Qui est l'équivalent de nos victoires de la musique en France.
Oui.
Donc, il y a déjà beaucoup de reconnaissance. Et ce sont des choses qui, quelquefois, font un petit peu bouger les lignes dans la tête, justement, par rapport à garder cette intégrité et cette distance. Apparemment, pour l'instant, tu as l'air de bien tenir le choc.
On essaie, mais on est bien entouré aussi, ça aide, de toujours bien être entouré de gens qui vont être là pour nous ramener à l'ordre si jamais on dévie trop de notre but. Tu sais, qu'on exprime bien qui on veut être et où est-ce qu'on veut aller. Si nous, on se perd parfois, ça donne la chance d'avoir ramené des gens autour de nous qui savent et qui se rappellent de ce qu'on veut et qui nous aident à rester dans ce,
oui,
dans ce chemin, en fait. Oui, exactement.
Alors, Stay Tuned est donc ton deuxième album. Il s'inscrit donc dans une trilogie et donc c'est le second opus donc, de cette trilogie. Comment est né ce projet, ce concept? Parce que c'est un gros morceau. Hein,
oui, c'est un beau petit défi. J'aime beaucoup les défis. J'aime beaucoup travailler avec une structure où je peux comprendre où je m'en vais exactement. Mmh. Et j'ai longtemps questionné tout ce que je ne savais pas par rapport à l'histoire des Noirs. J'ai réalisé que mon éducation, j'ai une éducation française. Je suis dans un collège, j'ai fait mon bac. Je suis dans un collège français. Donc, on a appris l'histoire du Canada, l'histoire du Québec, l'histoire de la France, un peu d'histoire internationale, mais il n'y avait pas vraiment un volet histoire des Noirs ou histoire des Afro-Américains. Tout ça, c'était, ou même au niveau des Premières Nations ou des Autochtones, c'était, je me rappelle de livres quand j'étais plus jeune qui disaient il y avait des sauvages et on est venu les civiliser ou des choses comme ça. Et quand tu grandis, tu te rends compte, non, en fait, vous avez envahi un espace qui était occupé par d'autres gens qui vivaient différemment de vous. Et donc, vous avez un peu regardé de haut cette manière de vivre qui était différente. Donc, j'ai voulu m'éduquer. Et en commençant à m'éduquer des faits historiques, j'ai réalisé que tout ce que je ne savais pas en fait, je savais déjà en émotion, comme s'il y a une mémoire collective quelque part. Et cette mémoire, en fait, elle se transmet beaucoup à travers la musique. Donc, les émotions de ces moments historiques étaient tous présents et la musique était imbibée de ça. Des styles musicaux en ont découlé. Et quand j'ai essayé de décomposer, de bien voir quels sont ces styles musicaux, j'ai réalisé qu'il y avait les trois couleurs primaires, il y avait toutes les émotions et il y avait tous les éléments, en fait. Donc, le blues, d'abord, c'est vraiment la nuit, c'est la traversée de l'océan. La nuit, le déracinement d'une personne, la perte d'identité. Ensuite, on est passé au rouge. Pour moi, le jazz, qui est la passion, le feu, la présence de la femme qui commence à être un peu plus imposée et imposante, et pour des bonnes raisons aussi. Et je me suis rendu compte que dès qu'il y a eu quelques libertés d'acquises, même pas, on n'a pas terminé, on est encore dans cette histoire, on en fait partie, en fait, on la crée encore. Mais dès qu'il y a eu quelques libertés d'acquises, les sujets et la couleur de la musique est passée. Il y a eu un soleil, une petite percée qui est arrivée et c'est le soul, le funk, le disco, il y a du jaune. Donc il y a vraiment, pour moi c'est le breeze of fresh air, comme on dit, le vent du changement qui est arrivé.
Ça, ce sera le troisième album. Donc.
Exact. Et même les sujets en fait sont devenus plus universels, comme enfin on peut tous avancer ensemble. Et c'est la danse, c'est l'histoire d'amour, c'est des choses qui parlent à tout le monde et beaucoup plus légères aussi. Donc c'était de réaliser que les couleurs primaires, toutes les émotions, toute notre histoire était là, en musique, en émotion. C'est la manière la plus sincère en fait d'entendre vraiment ce que les gens ont vécu, parce que les livres d'histoire ou les livres en général sont écrits par les vainqueurs, mais la musique elle est écrite par des âmes qui étaient là et qui ont voulu communiquer vraiment comment ils se sentaient, et on l'entend tout de suite quand c'est sincère. Donc c'est comme ça que la trilogie est venue au monde.
Plus précisément, j'aimerais bien savoir dans quel contexte tu as écrit et composé ces deux premiers albums. Comment sont nés chacune, peut-être pas à faire l'inventaire de chacune des chansons, mais comment tu les as écrites? À quel moment, dans quel contexte, à quel endroit? Est-ce que c'était après avoir vu un documentaire, lu un livre, ou discuté avec des gens, ou lu un article?
J'ai beaucoup fouillé, j'ai beaucoup lu d'abord au niveau de l'histoire pour voir vraiment, même moi je ne connaissais pas bien mes dates, les périodes, combien de temps ça durait, dans quel coin, qu'est-ce qui se passait au Mississippi, qu'est-ce qui se passait à Détroit, les différents endroits où aussi c'était les berceaux musicaux en même temps, que c'était des endroits historiquement chargés. Mmh. Et ensuite, je suis allée rechercher plus la musique. Donc, par exemple, Nameless, je suis allée beaucoup dans essayer de retracer tout ce qu'il y avait d'enregistrements originaux de chants d'esclaves. Donc, tous les chants, les field recordings, on appelle les field songs, les chansons qui étaient faites dans les champs pour travailler, très minimalistes. Encore une fois, une des racines du blues, parce qu'il y a la souffrance, mais il y a aussi le fait de prendre tout ce qu'on peut trouver, n'importe quoi, pour créer, que ce soit une guitare avec une corde ou que ce soit des pioches. Donc ça m'a beaucoup inspirée. Et j'ai la chance d'avoir assumé que ma voix est mon instrument. Au début, je disais « je n'ai que ma voix ». Maintenant, je dis « j'ai ma voix ». C'est un instrument à part entière et à part égale aux autres. Et je me suis donc permis de créer chaque instrument ou ligne mélodique avec ma voix pour que les musiciens par la suite puissent les reproduire. Et c'est là que j'ai réalisé qu'on n'a pas besoin de savoir écrire la musique, il y a toujours un moyen de communiquer, il y a toujours un outil quelconque qu'on veut partager, on trouve le moyen. Donc ma voix a été le vaisseau porteur depuis le début et finalement c'est resté, beaucoup de ces étapes-là sont restées dans l'album plutôt qu'enlever et mettre juste les musiciens.
D'accord.
On a voulu être sincère avec le processus. Et donc, on laissait un peu plus qu'on...
Et du coup, il y a ta voix, il y a des voix, parce que les voix sont très présentes, en fait. Hein. Oui. Elles ont vraiment la place d'instrument de musique.
Exact, c'est vraiment ce qu'on voulait. Oui. Et de se donner le droit aussi de faire quelque chose de différent, en fait, parce que c'est moi, donc c'est mon projet, c'est sûr, c'est ma voix, mais c'est aussi mes idées qui sont inspirées par tous et qui se combinent aux musiciens et qui donnent la chance à... En fait, le message, c'est ça, c'est donner la chance à n'importe qui. Si tu veux t'exprimer, tu n'as pas besoin de plus que ta voix, ou tu peux même avoir juste tes mains pour taper, et déjà, tu as créé. Donc, la création est accessible en tout temps, partout.
Et comment est-ce que tu as choisi les événements? Parce qu'on voyage comme ça, donc, au travers de cette histoire, et il y a quand même des événements ou des personnalités que tu as choisies plus spécifiquement, qui jalonnent un petit peu ce voyage où, dans les trois albums. Enfin, pour l'instant, moi, j'en ai que deux.
Moi aussi.
On n'en a eu que deux voilà, à disposition et on attend le troisième. Donc, comment ça s'est passé, tes choix?
J'ai toujours été inspirée. Il y a Billie Holiday qui est au début du premier album et la dernière chanson est un cover de Nina Simone.
Oui.
Et pour moi, le premier album devait être ancré dans une reconnaissance envers nos ancêtres. Mm-hmm. Donc, c'était pour ça que c'est entouré de ça. Et c'est aussi parce que je sors mon éducation émotionnelle et passer à travers ce genre de femmes aussi. Des femmes fortes qui n'ont pas eu peur de dire ce qu'elles pensaient, qui ont été sincères, qui n'étaient pas forcément dans l'académique. Bon, Nina, oui, mais Billie, il y a vraiment l'émotion. Il y a même des fois sa fausse et c'est beau. Et moi, j'adore ça parce que moi, c'est la même chose. Apparemment, je suis toujours un peu en dessous de la note, en fait, mais c'est moi. Et c'est très commun des femmes dans le blues et dans le jazz. Donc, de s'inspirer, de se donner la force à travers ces femmes. On se dit, elles ont commencé à frayer un chemin et maintenant, on a le droit de continuer sur ce chemin qui est un peu plus facile d'accès vu qu'elles ont travaillé si fort. Donc, on va continuer dans cette lancée et leur rendre hommage aussi, leur dire merci qu'on les a entendues, qu'on est là et qu'on n'a pas fini.
Et sur le second, donc par rapport à Nine Little Red Rocks. Voilà, à Emmett Till, à... Il y a des événements quand même assez précis.
Oui.
Et que j'allais dire que tu n'as pas choisi par hasard en pensant au fait que tu avais été à Concordia. Et qu'il y avait... Mais je crois que tu l'as appris après. Si
j'ai
on peut revenir
après.
Un petit peu sur l'histoire. Donc,
exact. Mais d'abord, il y avait les 9 étudiants qui étaient à Little Rock, Arkansas, qui ont été escortés dans l'école par l'armée, en fait, Eisenhower a envoyé l'armée.
Qui devaient donc être les premiers étudiants, enfin, au moment où la mixité commençait à être, enfin, devait être appliquée.
Oui, mais qu'elle ne l'était pas parce qu'il y avait une résistance encore de la part du peuple, en fait.
De gens qui se manifestaient, qui refusaient.
Ouais, et des rushs, ils ont vraiment... C'était violent, en fait, alors que les gens voulaient juste aller s'éduquer. Et j'ai découvert, en fouillant un peu, parce que je me suis demandé, il me semble qu'à Montréal ou au Canada... Des fois, on grandit avec l'impression que tout ça est tellement loin, étranger, que nous, on n'a jamais eu rien de tout ça. Mais en réalité, on a nos histoires aussi et nos côtés un peu plus sombres, qui sont peut-être juste un peu mieux camouflés parfois. Et j'ai réalisé qu'à Concordia, 2 ans après cet événement en Arkansas, il y a eu au 9e étage, donc le chiffre 9 m'avait marqué.
Donc ça, c'est au Québec.
Exact, hein, à Montréal.
Québec, là, oui.
Exactement. Et c'est donc une université où des étudiants ont parti une manifestation parce qu'il y avait eu des comportements racistes de la part d'un professeur et l'administration n'avait pas vraiment enclenché le processus comme ils auraient dû. Et donc, ils ont pris siège du 9e étage, qui était les salles d'ordinateur, et ça a terminé en feu. Donc, et ça a été, en fait, il y a des rumeurs qui veulent que le feu aurait probablement été mis par l'armée qui a été envoyée pour les faire sortir et faire évacuer le siège. Et donc, c'était un parallèle intéressant pour moi au niveau de l'importance de l'éducation et aussi de ce rapport avec l'autorité qui peut parfois être en train de t'escorter pour t'aider à rentrer comme il peut être en train d'essayer de te chasser. Donc c'est vraiment, il faut faire attention et s'assurer qu'on travaille tous ensemble et que les autorités travaillent pour le peuple et avec les gens pour une amélioration et non pas pour la personne en charge, entre guillemets. Donc c'était le parallèle qui m'a marqué et que j'ai, qui a inspiré dans le fond, Nine Little Red Rocks.
Et ce qui est étonnant, si j'ai bien compris, c'est qu'en fait, tu as été étudiante sans savoir cette
sans
histoire.
Sans savoir, ouais.
Et à quel point sais-tu quand même ?
C'est incroyable. Et surtout, quand j'ai découvert ça, et l'album sortait en février de l'année dernière, de cette année en fait, et c'était exactement 50 ans d'anniversaire. 60, pardon. C'était les 60e précisément de cet événement. 60 ou 50, un des deux, j'ai oublié,
oui.
Mais
c'était un gros anniversaire,
voilà, c'était une date
bien rond. Oui.
Exact, c'était bien rond et je ne savais rien de tout ça. Je n'avais jamais rien entendu jusqu'à ce qu'on recherche et on se rend compte que récemment, les gens avaient commencé à en parler.
Donc le premier album dont tu parlais, Nameless, tu l'as dit, était dans le bleu, le blues, l'indigo, la traversée de l'océan. Le bleu aussi, j'ai noté, de l'indigo qui allait teinter les vêtements royaux en Europe.
Exact, mais c'était aussi cultivé par les esclaves aux États-Unis. Mmh. Donc eux, ils étaient dans les champs à cultiver, ce qui permettait de créer cette teinture qui était la couleur royale, dans le fond, et qui teintait les vêtements de l'autre côté de l'océan.
Qui venait pour les parures, les belles parures royales.
Ouais. En fait, ce que j'avais trouvé fascinant de l'indigo, c'est le fait que, en gros, l'indicant, qui est l'élément ou le composé organique, il est incolore, présent dans les plantes, etc. Et c'est vraiment, il est incolore et insoluble dans l'eau, mais une fois qu'il sort dans l'air, c'est là qu'une espèce d'oxydation qui fait sortir la couleur indigo. Donc c'est ce genre de choses qui n'existent pas, et surtout l'impact des éléments sur un organisme que j'ai trouvé fascinant.
La réaction.
Exact. Et ça a été un autre élément qui m'a fait sentir que, en fait, la couleur indigo, le bleu, la traversée, le fait que c'était avec ça qui teignait les vêtements, il y avait trop de liens et d'éléments qui faisaient que c'était la couleur nécessaire pour l'album, en dehors du fait que le blues, c'est bleu. C'est aussi vraiment cette molécule spécifiquement, combien ça peut être fascinant, la nature et les différents impacts des éléments sur nous et sur d'autres éléments organiques.
Tu parles de la tristesse, toujours pour ce premier album bleu, la tristesse, la mélancolie, la sagesse, la traversée humaine, l'esclavage. Tu évoques aussi le fait de guérir au niveau social. Et les chansons donc, de ce premier album se sont développées autour d'un texte de la grande écrivaine africaine-américaine Maya Angelou.
C'est ça, Still I Rise.
Voilà, dont tu as dit quelques mots hier soir, au Duc des Lombards. Grande amie de James Baldwin. Et en fait, donc plus particulièrement, je crois, tu es partie autour d'un texte de ce fameux poème de Still I Rise qui a été lu et repris par de nombreuses personnalités. J'ai même vu Serena Williams le lire.
Ah
oui,
wow.
Il y a une vidéo sur YouTube de Serena Williams qui le lit.
Quel
est ton lien avec ce poème? Comment est-ce que tu l'as découvert et quel écho a-t-il eu dans ta vie?
Je cherchais pour m'inspirer parce que quand j'ai commencé à rechercher pour Nameless au niveau de l'histoire, etc., les sujets étaient tellement lourds et tellement pesants et en fait douloureux, vraiment. Il y avait ça, c'est pas loin dans l'histoire, le temps. Tu te dis waouh, moi j'étais à un clin d'œil en fait de naître peut-être dans cette époque, et je voulais trouver des femmes fortes qui parlaient de ça et des traces systémiques encore présentes, mais avec un ton empathique et empowering qui nous donnait de la force, qui nous faisait sentir en contrôle et en pouvoir de changer les choses.
Oui, pas juste subir.
Exact. Et Maya Angelou, pour moi, c'était ça. C'était vraiment la douceur et la force en même temps, l'empathie, la conscience, quelqu'un qui a pris le temps de regarder autour et qui voulait vraiment le bien, en fait, de tout le monde, qui voulait pas lancer de confrontation ou de pointer du doigt et punir, mais plutôt s'assurer de l'élévation, Still I Rise, tous ensemble. Qu'on arrive tous à passer au prochain niveau et à la prochaine strate. Donc, ce poème spécifiquement était venu me chercher le côté « Still I Rise » de pouvoir partir d'en bas et de monter. Et où est-ce que nous aussi, on est rendu qu'on est en évolution constante et on avance, en fait. On ne peut pas dire qu'on a stagné, on est encore en mouvement, mais on a bougé déjà. Donc, ce poème-là est vraiment... Il est venu me dire tout ce que j'aurais pu vouloir dire, mais en mille fois mieux. Donc on s'est dit, on va lui faire hommage et lui dire merci. Commencer le show avec cette petite bulle d'amour qu'elle nous a laissée.
Oui, de force aussi, parce que c'est aussi une façon de dire non, ce poème. De dire non à l'oppression, de dire non. Comme Rosa Parks, à une autre époque, et d'autres qui ont été moins connus que Rosa Parks.
Et, ouais.
de refuser de continuer à subir, en fait.
Exact. Et de refuser d'être une victime. Oui, vraiment.
Donc, Nameless, ça s'ouvrait avec ta reprise de Strange Fruit, cette célèbre chanson de Billie Holiday qui parle de ces fruits étranges dans les arbres, qui étaient en fait les corps noirs qui avaient été lynchés. Et c'est une chanson terrible par son sujet, mais aussi par le fait que l'on a longtemps accusé Billie Holiday de ne pas comprendre ce qu'elle chantait. Et j'ai lu un livre entier là-dessus. C'est juste incroyable, quoi. C'est juste tellement... Ça révèle tellement l'époque à laquelle elle vivait. Enfin, ouais. D'ailleurs, encore aujourd'hui, on pourrait, je pense qu'il en reste pas mal de choses de ce qu'on trouve dans ce livre. Mmh. Et donc, en voyant que tu avais fait le choix de cette chanson pour ouvrir la trilogie, je me demandais pourquoi celle-ci, pourquoi cette chanson-là.
Ben, en fait, à la base, c'est un poème de fin 1800. Mmh. Donc, c'était aussi un pont parfait entre la fin de l'esclavage et le début du siècle. Et il y a quelque chose dans la dureté des mots, mais la douceur avec laquelle elle les chante, qui me donnait l'impression que c'est ça en fait la solution. C'est que tout sujet s'aborde, mais avec le bon ton et la bonne attention encore une fois. Et c'est ça que, je pense que c'est pour ça aussi qu'elle s'est fait reprocher ça, c'est que les gens ils se disaient, mais tu peux pas chanter ça sur ce ton-là. Mmh. Mais en fait, justement, le seul moyen...
Pourtant, sa voix est tellement tragique dans cette chanson.
Vraiment, mais ça reste que c'est de la musique, et tu dis des mots aussi. Tu vois, donc il y a quelque chose de... Il y a une espèce de contraste qui choque les gens d'entendre ces choses-là, mais en vibration d'entertainment, en fait. Parce que la musique, il y a aussi un côté... Oui. Et entertainment, et surtout à cette époque-là, c'était vraiment le but principal de la musique, c'était...
Divertissement.
Exactement, oui. Divertir. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un peu de ça. Il y a eu ce côté où on dirait que les gens n'arrivaient pas à croire que ce sujet pouvait être abordé comme ça, et donc qu'elle n'avait probablement pas compris ce qu'elle disait. Oui. C'est sous-estimé grandement Billie Holiday.
Oui, puis c'est vraiment la prendre pour une imbécile, ouais, quand même.
Vraiment, mais... En même temps, ça fait partie de la manière qu'on traitait les femmes et qu'on regardait les femmes. Pour moi, ça m'étonne absolument pas, en fait. C'est un classique. Et c'est encore aujourd'hui, il y a beaucoup de... On sous-estime encore beaucoup de femmes juste parce qu'elles vont avoir une image ou un son ou une apparence qui va être délicate ou plaisante au regard. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas tous les outils pour aller se battre et faire la révolution avec toute sa douceur.
Et donc, ce premier album se termine avec Feeling Good, que l'on a connu, enfin moi en tout cas, que j'ai connu avec la version de Nina Simone. Oui. Et là aussi, j'imagine que le choix était bien réfléchi, d'autant plus que les phrases « It's a new day, it's a new dawn », tu les reprends, mises en musique différemment, tu te les appropries au début du nouvel album, du second album de la trilogie, donc « Stay tuned ». Tu as un fil comme ça, parce que j'ai cru comprendre hier soir que « Old Love », qui est donc la fin du deuxième album,
oui, exact.
introduit aussi le troisième.
Oui, mais pour moi, je voulais vraiment que la trilogie soit... une pièce qui s'écoute du début à la fin, comme si c'était un morceau. Je vois ça comme trois actes d'une même pièce de théâtre. Et ces éléments sont comme les entractes. En fait, ces liens entre les deux permettent de faire une évolution rationnelle et concrète. Et aussi, pour moi, Nina, c'était... Autant qu'elle chante « Feeling good », dans la vraie vie, c'était une représentation même de la révolution qui arrivait dans le jazz et de ce côté activiste et de cette... force et du côté très confrontation. Elle n'avait pas peur et elle est allée pas froid aux yeux. Donc, c'était parfait pour annoncer un peu la thématique du prochain album, tout en faisant une boucle sur le fait que je veux que chaque album et la trilogie nous amènent de la douleur au bien-être. Parce que le but, c'est d'atteindre un espace de guérison commun. Et Feeling Good, pour moi, c'est ça aussi. Donc, c'était la chanson parfaite. Oui. Pour terminer, qu'on a commencé avec Strange Fruit, qui est tellement lourd, Feeling Good vient terminer un peu plus en délicatesse et en calme et en bien-être.
En harmonie.
Oui, vraiment.
À quel moment ces chanteuses de jazz, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, sont entrées dans ta vie et t'ont touchée?
Je pense très jeune, tous les styles musicaux venaient me chercher, mais il y avait quelque chose avec le jazz et le blues, même B.B. King. Toutes ces chansons, je me rappelle les écouter en boucle, le soir, la nuit. Tu sais qu'on est, on est ado et on découvre la musique et c'est tellement bon que là, on veut la
dedans.
Manger. Ah oui, on dirait qu'on la boit et on peut la on s'en lasse jamais. Et c'était ça, c'était ce côté magique-là que je voulais recapturer, revisiter avec elle. Et très jeune, même, je me rappelle des films de Josephine Baker, des films qui racontaient sa vie et qu'on découvrait qu'elle avait été espionne. Et elle a l'air
oui, dans La Résistance, oui, elle a eu un rôle, mais je l'ai découverte assez tard, moi aussi.
Ouais, non, mais c'est ça, c'était
bien
caché.
J'étais très surprise. Elle passait dans son soutien-gorge des messages codés
oui,
en Angleterre.
Je trouvais ça génial. Et je me disais, c'est ça, des fois, la femme a été sous-estimée souvent. Et on dit, oh, elle est mignonne, elle fait ci et ça, elle danse avec des bananes. Mais non, elle est en train de faire la révolution et vous ne le voyez même pas tellement, c'est fait avec délicatesse et douceur. Donc ça, c'était aussi un élément très inspirant pour moi. Oui.
Alors, Stay Tuned, le second album, là, c'est un album, tu l'as dit, rouge, qui est la couleur du jazz, de la passion, dis-tu, de la rébellion, de la révolution, de la femme, du sang, du feu, de la lave, qui détruit tout, mais laisse place à une fertilité encore plus grande. Ce rouge après ce bleu, donc c'est un cheminement historique. Et qu'est-ce que le jazz représente pour toi, parce que j'ai entendu que le prochain album allait être plus soul funk, et j'ai écouté d'autres choses que tu as faites qui sont aussi dans d'autres horizons musicaux. Oui. Donc le jazz particulièrement, quelle place il a dans ta vie et quel rôle il a joué ?
Le jazz, j'ai réalisé que d'après moi, il y a eu comme une misconception, est-ce que ça se dit en français ? Une misconception.
Un malentendu.
Oui,
une
mauvaise malentendu.
Compréhension.
Oui, j'ai l'impression qu'on a enfermé le jazz dans une notion académique avec ses telles notes, telle progression d'accords, etc. Alors qu'en réalité, le jazz, c'était un état d'esprit où des musiciens se sont dit on fait ce qu'on veut, tout simplement. La liberté de faire ce qu'on veut et de ne pas être enfermé dans une conformité, en fait, de ne pas s'obliger à se conformer, voilà. De ne pas avoir un cadre obligatoire de « ça c'est bien, ça c'est mal ». Il y a des accords du « diable », entre guillemets, qu'ils appelaient, et c'était juste des dissonances et des choses qui tirent à l'oreille, mais il y a quelque chose de beau là-dedans et de pouvoir explorer de nouvelles vibrations. Donc pour moi, le jazz, c'est ça, c'est de se redonner le droit de faire exactement ce qu'on veut et de le sentir, en fait, tant que c'est avec la motivation de vouloir faire changer des choses et d'explorer, de créer librement et en explorant. Donc, pour moi, le jazz de Stay Tuned, c'est ça. Donc, c'est pour ça que certains jazzmen ou des gens plus... certains à un côté un peu puristes vont dire que ce n'est pas du jazz. Ils disent non, ce n'est pas la version académique de ce que vous avez décidé qu'était le jazz, mais c'est du jazz. C'est l'essence du jazz, en fait, qui est de faire ce qu'on veut. Et je voulais ramener et souligner l'importance de continuer à explorer, de ne pas se laisser limiter par ce qui a été fait avant, mais vraiment que la musique, elle est là pour être...
De sortir des cadres. Ben ouais. Normalement, la créativité, l'art, c'est justement en dehors des cadres.
Mais c'est ça.
À partir du moment où il y a des cadres, ben oui, ça fait peur. Donc, tu sembles explorer un héritage, mais j'ai cru comprendre aussi que tu explores des traces invisibles qui se transmettent. Ça semble assez important, ces liens entre passé et présent, même par rapport à l'esclavage.
Tout à fait. Qui est encore là.
On en parle au passé, mais en fait, on voit bien que l'esclavage moderne est encore très, très présent. Est-ce que tu pourrais nous faire le détail de quelques titres, pas tous les titres, parce qu'on n'aura pas le temps, malheureusement, mais je vais t'en donner deux sur lesquels j'aimerais que tu nous dises quelques mots, et puis peut-être si tu veux en choisir deux ou trois aussi sur lesquels tu pourrais parler. Pour moi, j'avais choisi Freedom parce que c'est un titre incroyable déjà, parce que tu as fait un clip magnifique avec une danseuse, chorégraphe.
Oui, Axel.
Axel.
Oui, Axel Ebony.
Axel Ebony.
Oui, elle est merveilleuse.
Voilà, donc c'est très très touchant, c'est vraiment magnifique. En plus, le titre, tu l'as mis en deux mots, donc tu vas nous expliquer un petit peu. Et puis Old Love, sur lequel il y a un très beau clip aussi, qui est un titre aussi un peu particulier, là, qui fait la jonction entre les deux albums et qui est juste à tomber par terre. Donc ton interprétation hier soir, c'était très très touchant, les gens étaient vraiment très touchés. Je regardais le public autant que je te regardais.
C'est génial, mais c'est génial quand on sent les gens connectés aussi, parce que c'est tellement... ça vient vraiment du cœur, en fait. Et c'est des sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc, c'est toujours... on sent vulnérable quand on les présente pour la première fois. Et on espère que les gens vont comprendre, en fait, que c'est pas... On pointe pas du doigt, mais on parle vraiment avec une envie d'empathie, de connecter. Freedom, c'était... C'est décomposé en deux mots parce que c'est free, dumb, et moi c'est dumb.
Oui,
donc c'est ma libération à moi en fait. Donc c'était vraiment pour. On parle de free jazz, mais c'est free chaque personne en fait. Chaque personne a un moyen de créer sa propre liberté à travers la création. Et finir sur cette importance pour rappeler à tout le monde la liberté qu'ils ont d'aller là et aussi le manque de connexion et de connectivité qui sont présentes socialement. C'est ça en fait notre plus grand ennemi, c'est ce côté où on sépare, on a l'impression qu'on est différent du voisin, et ça c'est une autre prison. Donc c'était cette libération-là, vraiment une libération de l'esprit, de rester authentique à nous-mêmes et à notre instinct, à nos vibrations. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup, il y a un son un peu différent et un peu plus presque moderne quelque part, parce que je voulais tendre vers la modernité et me représenter dans la chanson. Et Old Love, c'est vraiment le lien caché entre Stay Tuned et le prochain album, parce que on pourrait penser que ça part d'une histoire d'amour, mais en fait, c'est un peu un petit clin d'œil à ce côté de cette séparation aussi. Quand j'entends la phrase, par exemple, « dans mon temps, c'était comme ça », ça parle de ça, en fait. Oui, old love, ton ancien amour, ton ancien monde que tu as connu et qui t'a mis confortable en grandissant, il ne reviendra jamais. Les choses ne reviendront jamais en arrière, une chance, mais on continue à changer et d'accepter et encourager, intégrer ce changement, les différences, les gens, le monde a toujours bougé, les gens se sont toujours promenés, les cultures se sont toujours mélangées et influencées. Et plutôt qu'essayer de stopper ce mouvement, il faut l'accepter et l'intégrer comme étant une possibilité de changement et une ouverture sur l'autre et donc sur soi-même et sur notre capacité à être ouvert à l'autre. Donc c'était un peu ça, c'était un petit clin d'œil de... Parce que ça dit, just like my hands used to be, I'm all over you. Donc, on pourrait penser, mes mains sont partout sur toi comme elles étaient avant, ou je suis tout sur toi comme avant. Mais c'est vraiment une idée de territoire où avant les mains étaient dans les champs et maintenant l'humain entier est présent sur tous les territoires et il y a sa place. Surtout ça, le plus important, c'est d'accepter que ce changement, il ne va pas retourner en arrière et au contraire, on va continuer à avancer pour laisser la place à tout le monde et s'assurer que tout le monde est bien. Et confortable à sa place.
Oui, c'est ça. On sent au travers de tout ce travail là que tu as entrepris avec cette trilogie que c'est pas un regard sur le passé, c'est vraiment utiliser tout ça pour aller vers présent et avenir. On sent que c'est vraiment créer autre chose, ouvrir autre chose.
Oui, j'ai l'impression que quelque part notre petit corps tout limité dans son temps, il nous donne l'impression qu'on a vu plein de choses, mais en fait on est juste un point dans une longue histoire et on ne peut pas voir. Des fois, il faut prendre un recul et je pense que c'est ça que la musique nous permet de faire, prendre une espèce de recul et regarder le bigger picture, regarder le tableau complet et se rendre compte que oui, il y a 60 ans, 100 ans, on n'était peut-être pas là, mais il y a des traces encore systémiques, il y a une mémoire collective, il y a des comportements sociétaux qui se répètent par habitude. Sans même se questionner en fait pourquoi sont-ils là, c'est juste ah mais ça a toujours été comme ça, mais ok, maintenant est-ce qu'on est obligé de continuer comme ça,
c'est de répéter indéfiniment,
mais c'est ça, juste parce qu'on nous l'a appris. Oui. En fait, mais des fois on le voit même pas parce qu'on a été trop habitué, c'est trop devant nous.
Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de comportements clichés qui sont... Et puis aussi, il y a quand même beaucoup de comportements en ce moment qui sont très assumés de racisme, pour dire le mot, du sujet dont on parle, et qui sont... qui reviennent quand même très fort aussi, et de rejet de la différence, et en tout cas ici, et je crois que par chez vous, c'est pareil.
Oui, malheureusement.
Alors, tu as défini déjà la couleur donc, de ce troisième album qui sera jaune. Tu nous en parles un petit peu ? Ah non, mais on n'a pas fait les... Si tu pouvais nous parler de deux, trois autres chansons que toi, tu
deux, trois autres chansons
pour nous parler un petit peu de ce que tu y dis.
Ben moi, j'aimerais bien parler vite fait de Constructive Interference, qui parle en fait de... C'est un terme qui est utilisé en technologie. C'est par exemple, disons que j'ai des écouteurs et je veux annuler un son. C'est que tu peux créer une fréquence opposée, exactement opposée, qui va annuler un son. D'accord. Donc c'est comme ça que on appelle ça interference. Et c'est constructif parce que c'est ce que je désire faire en fait. Et pour moi, la musique, ça peut être ça. C'est s'il y a des ondes négatives qui se promènent dans le monde, en envoyant des ondes positives et de la bonne quantité, donc aussi forte que...
Équivalente.
Voilà, on vient de au moins
rétablir.
Oui. Voilà, et ensuite on peut construire vers le haut, mais c'était cette volonté aussi de déranger, disturb, et venir interférer en fait carrément avec notre voix, notre intention, un système et un monde qui peut avoir des tendances un peu haineuses ces temps-ci et un peu agressives. Donc combattre l'agressivité avec la douceur, combattre la haine avec l'amour, la peur en fait avec l'amour, parce que l'opposé de l'amour c'est la peur. Et voilà, constructive interference, moi ça m'avait beaucoup marqué, les fréquences et tout ça, ça, ça me parle. Big Men Do Cry, parce que c'est sûr que c'est un album qui parle beaucoup et qui réfère à la femme, mais je pense que dans ce mouvement ou de libération de la femme qu'on est en train d'observer et de créer, il y a à ne pas oublier l'importance de donner le droit aux hommes de vivre leurs émotions, parce que je pense que ça passe à travers ça aussi. On les oublie un petit peu parce qu'on a beaucoup prêté attention, ils ont une grande place, mais ils n'ont pas eu la place pour leurs émotions. Et d'après moi, beaucoup des problèmes de misogynie, etc., sont ancrés dans ça, dans une rééducation qui a besoin d'être faite et une rééducation émotionnelle.
Du sensible.
Et, voilà, leur donner le droit et leur dire, on est avec vous, tout le monde a le droit de vivre leurs émotions. Et s'il vous plaît, faites-le, parce que quand vous ne le faites pas, ça se refoule et ça sort, homme ou femme, ça sort tout croche. Donc, mieux vaut donner le choix à tout le monde. Tout croche, trop croche.
Il y a longtemps que je n'avais pas entendu cette expression.
Tout droit du Québec.
Tout croche, oui. Alors, on va bientôt terminer. J'ai vu que tu étais allée chanter en Chine avec 20 danseurs internationaux.
J'y crois pas encore moi-même,
ah bon,
oui.
Qu'est-ce que c'était?
C'était la magie de la musique et de la danse qui se sont combinées, et de l'Internet, en fait, qui a fait qu'une danseuse qui s'appelle Apple, incroyable, est tombée sur le premier album.
Qui est chinoise?
Exact.
D'accord.
Elle avait créé une chorégraphie sur Nameless, qu'elle avait mis sur Internet, que j'avais trouvé. Donc j'avais pris contact pour lui dire waouh, c'est incroyable, blablabla, merci.
Donc vraiment avec le, enfin je vais pas lui faire le coup de Billie Holiday en pensant qu'elle a pas compris de quoi tu parlais, mais
oui, non, elle était très.
Elle, c'était vraiment le sujet qui l'intéressait.
C'était l'émotion. D'accord. Parce qu'il danse beaucoup à travers l'émotion, et c'est très oui, il y a un côté technique, mais il y a vraiment toujours, ils vont chercher la différence, ils cherchent toujours des chansons qui sortent d'un cadre habituel, pour les encourager, eux, à créer une danse qui sort des cadres habituels. Donc, le premier album, c'était Birds, voilà, le Sound of the Birds. Donc, c'était une chanson qui parle de libération, du son des oiseaux et du fait que l'oiseau qui s'envole, le son peut te faire peur, mais il a le droit de voler, en fait, et il fait très bien de s'en aller. Et donc, elle a pris vraiment cette chanson, elle a créé quelque chose avec. Et ensuite, Freedom, je lui avais dit, je t'enverrai le deuxième album. Je lui ai envoyé, elle a flashé sur Freedom et elle a créé une chorégraphie. Ils m'ont invité à venir ouvrir une compétition de danse avec eux, en fait, et moi qui chantais la chanson.
On peut le voir sur YouTube, hein, je précise absolument, pour ceux qui seraient intéressés.
Et c'était incroyable parce que je me disais, justement, je parlais quand j'ai écrit Freedom, ma libération, ma liberté d'être et de créer, de voyager aussi, d'être libre partout. Et de se faire accueillir en Chine grâce à cette chanson, c'était quand même spécial, en fait. Ça faisait comme une espèce de boucle complète où on se dit, OK, on projette une envie, une intention dans l'univers, et il nous entend. Et il nous dit, OK, mais regarde, on va aller t'envoyer là-bas, partager cette émotion avec d'autres gens qui sont d'accord et qui ont envie de la vivre et même de danser dessus, de danser cette chance et cette liberté.
Oui.
Donc, ça a été un des highlights de mon année.
Et comme quoi, le sujet de départ de cette trilogie, c'est universel. Ça concerne tous les êtres humains, en fait. Ça fait écho à tous les êtres humains.
Plusieurs des danseurs ne parlaient pas anglais, mais ressentaient. Et on le sentait, donc on se rend compte à quel point les mots, oui, ils comptent, mais les gens peuvent entendre et comprendre, passer un langage. Il y a d'autres langages, en fait. Et le langage de la musique est vraiment universel. Donc, c'en était la preuve.
Et alors, tu dis que tu n'es pas une personne de show. saine, dans le sens, si j'ai bien compris, qu'en fait, tu n'aimes pas trop rentrer dans des formats préétablis, et que la saine, c'est vrai que ce sont des titres les uns après les autres, et généralement de 3, 4, 5 minutes, avec des gens qui applaudissent entre chaque titre. Et donc, hier soir, sur scène, tu demandes aux gens, dès le début, de rentrer avec toi dans ton univers, et tu préviens qu'il n'y aura pas de break entre les titres pour laisser la place au public d'applaudir.
Exact.
Comment c'est reçu, ça? Comment c'est perçu en général, ça?
Il y a des positifs et négatifs.
Oui.
Je dirais 90-95% des gens sont respectueux du concept et aussi même apprécient en fait le fait de vivre quelque chose de différent. Après, il y a un petit 5% de temps en temps, je pourrais même dire, je peux les compter sur les doigts de la main en fait, les gens qui ont dit « moi, j'ai pas aimé ça mm-hmm. », mais j'ai adoré en fait entendre des gens me dire « j'ai pas aimé » parce que ça me permet d'en parler avec eux. Et par exemple, c'est « oui, mais moi, j'avais envie de… » J'ai dit « oui, mais il y a plein de gens qui ont envie de faire plein de choses présentement, donc c'est de ça qu'on parle, c'est de cette restreinte que plein de gens peuvent vivre et aussi de l'importance de rentrer dans une bulle et de sortir des formats conventionnels, de se donner le droit de sortir des formats conventionnels. Donc, quand on me dit par exemple « j'ai pas aimé, je me suis sentie restreint », mais pourquoi ? Parce que tu as toujours été habitué à « mais pourquoi est-ce qu'on applaudit à la fin de chaque chanson ? Est-ce obligatoire ?» Et c'est de rappeler qu'on est obligé de rien faire et qu'aucune structure préfaite, chaque structure préfaite mérite d'être questionnée ou repensée pour s'adapter aussi à un nouvel environnement, à chaque personne, parce qu'on est tous différents et tous ces moules et ces cadres formatés, ils manquent de flexibilité parfois. Donc si je parle dans mon album de liberté de faire les choses comme je veux, ça a été autant de faire des chansons de quelques secondes comme de plus long. Le format, de ne pas faire refrain, verse, refrain, vraiment faire ce qu'on veut. Et je me suis dit, cette liberté, je me dois de l'acquérir aussi sur scène, parce que je ne peux pas transmettre le message correctement si je ne me donne pas le droit de le faire aussi. Donc j'étais chanceuse, les gens sont vraiment rentrés avec moi, les gens rentrent facilement dans la bulle et se laissent porter. On sent des fois des petites des envies de « oh », mais ça fait juste plaisir en fait à ressentir et ça permet aussi de ne pas être déstabilisé par ces coupures constantes, de rester dans le voyage, de les amener avec nous, de laisser la musique couler et d'arriver à des moments où ils ne peuvent plus se retenir, ben retenez-vous plus. Mais tant que vous pouvez vraiment rester avec nous et méditer, écouter, vous êtes les bienvenus à le vivre comme ça. Et surtout, j'ai toujours trouvé étrange l'idée de faire exactement le même son. Si une chanson t'a fait pleurer, t'a fait rire, t'a fait danser, on applaudit, c'est le son. Mais
c'est le seul moyen de, voilà,
de dire voilà. Mais on pense que c'est le seul moyen, mais on s'assent. Quand on est sur scène, plusieurs musiciens vont le dire, on se nourrit de l'énergie de la foule, mais ce n'est pas l'énergie qu'ils donnent en faisant un son ou une présence, c'est vraiment juste leur présence et leur attention. On le sent quand une salle est froide, on le sent quand une salle est chaleureuse, sans qu'ils aient à dire un mot. Ça passe dans la douceur des regards, dans leur présence, leur corps un peu penché parfois, ou bien installé, canté dans leur siège. Toutes ces choses font un applaudissement d'un autre genre. Donc c'était d'inviter les gens à applaudir avec leur cœur et dans leur âme, plutôt que physiquement.
Mais toi, c'est pas épuisant parce que c'est quand même, c'est dense. T'as pas de break, quoi. Tu commences et ça
non,
va jusqu'au bout,
pas.
À part les solos de tes musiciens, mais sinon c'est...
C'est sûr que c'est fatigant, mais je me suis rendu compte que c'est moins fatigant de faire un effort physique que l'effort mental que ça me requiert.
Oui, c'est ça, c'est comme niveau concentration.
Et... Oui, non, moi, c'est, en fait, l'épuisement, c'est, ça me fatigue plus d'entendre des applaudissements parce que ça me déstabilise chaque fois. C'est comme des grosses vagues d'amour qui te cognent dans la face. C'est vraiment comme ça que je le vis. Tu sais, puis c'est un bruit qui est... Ah, et en fait, c'est vraiment... C'est ça, c'est des coups de son qui disent « on aime ça ». Et c'est très flatteur, c'est sûr, mais c'est quand même très intense comme émotion à vivre. Et il y avait ça aussi un peu que je voulais dire, qu'on garde toute cette vague pour la fin, parce que sinon, moi, je ne vais pas me rendre à la fin du show. Je ne pourrais pas prendre à la fin de chaque chanson tout cet amour constant, alors que déjà, juste le fait que vous soyez là samedi, que vous appréciez, que vous vivez le moment avec nous, c'est trop pour moi, en fait. C'est trop d'émotions. Et ça m'a permis de vraiment plus rester concentrée et garder cet état d'esprit où je me mets en canal pour l'émotion, parce que sinon on revient à nous, le nous Dominique, comme le côté humain personnel, tandis qu'on essaie de rentrer dans un côté plus universel de transfert d'émotion. Donc ça...
Oui, quitter l'ego, la dimension de l'ego dans ce qu'il peut y avoir de mauvais là-dedans. Quoi.
Et même presque créer une méditation de groupe.
Mais d'ailleurs, ça m'a fait penser aussi à une artiste qui m'avait beaucoup marquée. Je l'ai interviewée 2 ou 3 fois et malheureusement, elle n'est plus parmi nous. Elle venait aussi du Québec, Lassa. Et en fait, Lassa, dans une interview, je lui avais demandé quelle était sa préoccupation principale quand elle était sur scène, dans ce qu'elle souhaitait... sa préoccupation principale. Et elle m'avait dit que c'était vraiment d'être concentrée sur le centre de son être, sur l'essentiel, sur cette densité qu'il y avait là. Et j'ai pensé à cette phrase hier soir en te regardant, parce qu'on sentait que tu étais... D'ailleurs, la première partie, tu avais beaucoup les yeux fermés.
Oui.
Et on sentait que tu étais vraiment dans cette concentration d'essentiel, quoi, de quête d'essentiel.
Essayer de s'ancrer et de se sentir... Et stay tuned, en fait, l'idée, ça reste à l'écoute en français, mais c'est aussi... Stay tuned, c'est rester sur la bonne vibration. Donc c'est un peu ça, de trouver son centre sur scène, bien ancré, de se sentir autant ancré dans le sol que léger et capable de connecter avec tout ce qu'il y a autour et jusqu'en haut, en fait. Donc ce centre, de le trouver pour rester dedans. Et c'est le même centre, je pense que c'est l'endroit où on peut le plus facilement communiquer de cœur à cœur.
Oui.
Donc je comprends totalement son désir et son l'effort, en fait, qui est nécessité pour rester là. Et aussi, Nameless, pour moi, c'était la nuit. Donc, c'est sûr, je ferme les yeux, mais c'est aussi parce que ça me permet de... Presque, quand je dis méditation de groupe, c'est à 100%. Et ça commence par moi, en fait, parce que c'est un peu moi qui invite les gens à cette séance de méditation. Donc, il faut que je parte le bal pour qu'eux puissent embarquer sincèrement.
Et j'étais assez étonnée hier soir parce qu'en fait, il y avait... Donc, c'était plein, hein, le Duc des Lombards.
Incroyable.
Et moi, j'ai toujours du mal avec les salles où les gens ont devant eux des verres et des choses à manger. Parce que ça me choque, ça me gêne pour l'artiste. J'ai toujours... Et quelquefois, ça peut être vraiment gênant parce qu'on entend des bruits de fourchettes, de verres, tout ça. Et hier soir, j'ai trouvé que les gens étaient vraiment exceptionnellement respectueux et pas respectueux pour être respectueux, mais parce qu'ils étaient vraiment embarqués dans ce long voyage puisqu'il n'y avait pas de break.
Oui.
Quelquefois, qu'ils en profitent entre deux chansons pour prendre un petit bout de...
Petite bouchée vite fait.
Ouais, une petite bouchée vite fait, voilà. Donc, pour terminer maintenant, j'aimerais te faire réagir sur 5 mots et t'inviter à nous dire ce qu'ils t'évoquent. Le premier, c'est symétrie, parce que j'ai vu que tu avais donné une conférence, je l'ai regardée d'ailleurs, au Québec, où tu es assise par terre. Là, tu n'es pas surélevée sur scène. Je pense que tu avais choisi ta position. Oui. Et en face d'un public, et où tu parles de la symétrie. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? Pourquoi ce sujet, ce mot est important pour toi?
Ben, je trouve que déjà, socialement, il y a une espèce d'obsession et un réflexe aussi humain d'aller vers la symétrie. Elle est présente partout, donc déjà dans le monde, dans l'univers, c'est un élément qui nous attire parce qu'il est partout et qu'il nous crée même. Et cette symétrie physique qu'on recherche ou vers laquelle on est attiré, c'est aussi c'est les parallèles en fait entre nous et notre émotion, nous et l'histoire et notre bagage. Donc c'est de l'équilibre, en fait. Pour moi, la symétrie avait cet élément d'équilibre et cette recherche et importance de l'équilibre dans nos vies et dans notre manière de regarder les choses et de reconstruire la société. Donc, pour pouvoir vraiment passer à autre chose, et comme quand je disais constructive interference, il y a des choses qu'il faut rebalancer. D'après moi, il faut pouvoir regarder dans le passé qu'est-ce qu'il y a eu, où est-ce qu'il y a eu une lourdeur, et aller enlever de ce poids et l'alléger parce que ça part pas, les choses ne disparaissent pas nulle part. Donc c'était vraiment un parallèle entre autant mon intention dans la musique que moi, mon parcours où j'ai vécu personnellement des événements qui m'ont laissé un peu dans la constatation que les émotions n'étaient pas prises en compte comme elles devraient. Donc quand on parle par exemple de symétrie dans la santé, on sait l'importance du corps, tout le monde s'occupe de son corps, mais on oublie que la santé mentale est égale. Et c'est un tout, en fait, donc il faut vraiment une balance, une symétrie, et donc il y a un débalancement social à plusieurs niveaux. que j'ai voulu aborder à travers le thème de la symétrie dans le morning. C'était Creative Morning, c'est des conférences du matin où on invite un artiste à discuter d'un sujet. Donc, il m'avait mis symétrie parce qu'il voyait que j'étais très... je m'applique beaucoup à essayer de mettre des structures dans les choses que je fais pour mieux m'y retrouver moi, mais aussi pour que ce soit des fils conducteurs plus clairs et évidents pour les gens. Donc, la symétrie, pour moi, était un des éléments principaux pour essayer de ramener à l'ordre et rééquilibrer les choses.
Oui. Héritage.
L'héritage, en fait, pour moi, c'est vraiment les traces d'amour du passé, les choses que les gens ont voulu nous laisser, ce qu'on décide d'en garder aussi, c'est le plus important. Donc, c'est encore une question de choix. C'est une question d'apprécier les bons côtés, de reconnaître les mauvais et de travailler à les effacer, mais vraiment de ne pas regarder de haut ce qui a été fait dans le passé, de comprendre d'où ça venait et qu'est-ce qu'on peut prendre pour continuer. Donc, Nina Simone, qu'on parlait, Billie Holiday, des chemins qu'ils ont créés, ça fait partie de notre héritage, et pas juste au noir, mais à l'univers, à l'humanité entière. Donc, de regrouper ces héritages pour qu'ils puissent s'appliquer à tout le monde, pour qu'on puisse tous avancer, ne plus mettre... respecter d'où ils viennent et s'assurer de leur faire honneur dans le futur.
Zone de confort.
Mon pyjama, mon lit, mon sofa, l'amour, les gens, l'empathie. Pour moi, c'est le confort, en fait, c'est juste un signe que tu es quelque part où tu devrais être. Quand les choses sont inconfortables, ça veut dire que tu t'es donné un défi, c'est très bien pour aller quelque part, mais le but de ce défi, c'est de sortir toujours de cette zone de confort, de retourner dans cette zone de confort. Donc, on se met dans l'inconfort pour évoluer, mais éventuellement, comme l'humain s'adapte, on finit par retrouver et à prendre la place qu'il faut. Donc, c'est un début, le confort.
Et tu aimes bien l'idée, j'avais lu, de briser nos microcosmes aussi pour avancer ensemble, parce qu'en fait, on peut rester dans nos zones de confort, mais... c'est pas toujours ce qui crée l'harmonie avec le plus grand nombre.
Non, non, non. Mais en fait, moi, je dirais que oui, sauf que c'est la quête de cette zone de confort tous ensemble. Oui. C'est de se mettre dans le discomfort pour recréer ce confort. Parce que dès qu'on se permet, on évolue et on grandit, on s'adapte à ce qui nous met mal à l'aise. Et on découvre qu'en fait, c'est pas si mal à l'aise que ça. C'est comme les peurs, dès qu'on les confronte, elles perdent toute leur force. Et même chose pour les zones de confort et les zones de déconfort.
Les deux derniers mots, interdépendance, c'est un mot que j'aime évoquer sur So Sweet Planet, quels que soient les interviewés, et j'ai vu que toi tu en parles assez fréquemment aussi.
On est un, on oublie, on est des petites cellules d'un gros système, beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus important quelque part, dans sa taille, dans sa présence, dans sa respiration, que ce soit en tant qu'humain connecté aux autres humains, que ce soit quand les gens ils disent par exemple « Oh, je m'en vais dans la nature », j'aime bien dire « Oui, mais toi, tu es la nature. Pourquoi tu parles comme si tu étais séparé, tu es plus qu'organique. Là, on est d'autres plantes. Moi, je suis une fleur, c'est sur le soleil. Je ne suis rien sans. J'ai besoin de connecter et de me rappeler à quel point on est un. Tout ce qu'on respire, c'est le même air qui a été respiré. Il y a 1000 ans, il y a 2000 ans. Donc, d'essayer le côté capitaliste, individualiste, je pense que ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas durer, parce que dans la vraie vie, ça part sur des bases fausses qui nous indiquent qu'on est séparés, alors qu'en réalité, on n'est rien les uns sans les autres.
Et on n'est pas supérieur non plus.
Ben non, du tout. Et chaque chose qu'on fait va influencer le voisin, qu'on le sache ou pas. Donc, c'est important de se ramener à ça et de se rappeler de combien on est un, tout simplement.
Et le dernier mot, c'est deux mots en fait, effet papillon.
Oh, l'effet papillon, mais ça va avec l'interconnectivité, tout à fait. Oui. Et j'aime bien avec le petit papillon, c'est un petit battement d'aile tout cute, tout mignon, mais c'est une tornade. C'est une expression qui dit en anglais, ça donne en français, si tu penses que tu es trop petit pour avoir un impact, essaie de t'endormir avec une mouche dans ta chambre. C'est ça pour moi l'effet papillon aussi, c'est le fait que tout le monde a cette capacité d'avoir un impact et que ça ne demande pas de hurler ou de faire des gestes incroyables. Ça peut être des petits gestes dans la vie de tous les jours et ça peut même être des gestes qui te viennent aussi naturellement que le battement d'ailes vient à un papillon. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il faut pour que les choses changent. Donc, de ne pas sous-estimer sa force et sa voix tout en restant authentique à soi-même.
Belle conclusion.
Yeah.
Merci beaucoup, Dominique Fils-Aimé, pour cette belle longue interview, pour Merci ce bel album, vous. Pour ces beaux concerts à Paris.
Merci à vous de l'accueil, il était merveilleux.
Très bonne continuation et j'espère que nous nous reverrons pour la suite, oui. Puisque la suite est attendue.
Le troisième arrive.
Le troisième arrive. Merci beaucoup.
Merci
bonne
beaucoup.
Continuation. Chers auditeurs, si vous avez apprécié cet entretien, merci de mettre 5 étoiles au podcast de So Sweet Planet sur iTunes. C'est très important pour qu'il ait plus de visibilité. N'oubliez pas de vous abonner, soit à la newsletter sur sosweetplanet.com ou sur iTunes, au podcast, ou les deux, pour être informé des prochains podcasts mis en ligne. À bientôt.